Bonjour à chacun. Donc, je remercie tous ceux qui ont prié pour moi. Je me suis senti porté durant cette semaine par les prières aussi, par la fidélité du Seigneur. Je n'ai pas choisi ce que personnellement, directement, ce thème dont je voulais vous parler ce matin. On me l'a proposé. C'est une église voisine, l'église de Coran, où je serai dimanche prochain, qui m'ont proposé ce sujet. Et donc, j'ai relevé le défi. Je me suis dit, bon, voilà. Donc, voilà, vous savez ce que je ferai dimanche prochain. Donc, connaître le thème, donc, c'est connaître notre Dieu, ce Dieu dont l'amour est exclusif. Ce Dieu dont la plupart de nos traductions parlent d'un Dieu jaloux, jaloux de son nom, jaloux de sa gloire. Et donc ce Dieu qui a libéré son peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte par de grands signes et prodiges. Vous connaissez l'histoire au Sinaï où il y avait sur cette montagne du feu, une voix puissante, le son du corps, des coups de tonnerre, des éclairs, des tremblements de terre, c'était quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité que Dieu vienne prendre un peuple, esclave d'un autre pour l'amener dans le désert, le rencontrer et en plus le destiner à un pays promis. Donc on va lire ce texte qui est, on va dire, le texte fondateur de cette alliance que Dieu a faite avec ce peuple d'Israël. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles pour ceux qui en ont une dans Exode chapitre 20. Vous lirez tout le contexte, évidemment, si vous en prenez le temps. Mais on lit simplement les 6 premiers versets. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis Yahvé, ou l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut, dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui m'haïssent et qui use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc c'est les deux premières paroles de 10, d'une série de 10 que nous appelons le décalogue, les 10 paroles ou 10 commandements. Donc, le Seigneur, l'Éternel, Yahvé, le nom exact, enfin exact, les 4 lettres qu'on appelle les tétragrammes, eh bien, comme Dieu s'est révélé à Moïse, dans le buisson ardent, eh bien, ce Dieu libérateur pose 2 interdits ici, pas d'autre Dieu face à lui, et pas de statue, ni d'idole, ou de représentation quelconque pour servir au culte, à l'adoration, à la prière. Donc, Dieu précise que son nom, il le dit dans Exode 34, 14, et on peut passer peut-être à la diapo suivante, merci. Donc, c'est un Dieu qui porte le nom de jaloux. Diverses traductions, donc il y a la seconde, Jérusalem et Darby, qui ont utilisé ce mot « jaloux », mais que d'autres traduisent, et ça s'approche peut-être un peu plus encore de ce qu'il est réellement aussi, la tobe, exigeant, français courant, « j'exige d'être ton Dieu », c'est déjà un peu une paraphrase, « j'exige d'être ton Dieu », chouraki, traduction d'un juif, ardent, « Je suis un Dieu ardent » et la semeur, « qui ne tolère aucun rival. Donc, le terme hébreu de jaloux ne véhicule pas les connotations négatives du mot français, mais ça vise une attitude d'exclusivité et dans une relation d'alliance à l'image de l'amour conjugal de l'époux pour son épouse, par exemple, ou de l'épouse pour son époux. Dieu aime son peuple et par conséquent, il ne tolère aucun rival. Il ne tolère pas d'autres dieux comme les nations qui ne connaissent pas l'Éternel. Et dans la Bible annotée, il nous est dit que la jalousie divine est un attribut du caractère de Dieu, un attribut de son amour, le fait qu'il nous aime. Et j'aimerais vous lire aussi d'un un livre que vous, certains qui font le groupe de formation avec Daniel connaissent, « Connaître Dieu » de Pecker, un livre aussi que j'avais étudié il y a longtemps et qui contient, que je peux vous recommander si vous ne l'avez pas ou ne lisez pas, parce qu'il traite aussi des différents aspects du caractère de Dieu. Et j'aimerais vous lire une ou deux citations de ce livre. « Comment se fait-il que la jalousie puisse être une vertu chez Dieu et plutôt un vice chez l'homme? Les perfections de Dieu sont des sujets de louange, mais comment pouvons-nous louer Dieu pour sa jalousie ?» Une question intéressante. Donc, il trouve une première réponse dans le fait que Dieu utilise souvent dans la Bible pour nous parler ce qu'on appelle un vocabulaire anthropomorphique, c'est-à-dire, un mot un peu technique, mais qui veut dire que Dieu prend un langage humain pour nous faire comprendre des réalités divines, célestes. Donc, je saute plusieurs passages et je reviens juste à la fin. La jalousie de Dieu n'est pas ce mélange de frustration, d'envie et de dépit qui est si souvent dans la jalousie humaine, mais elle apparaît au contraire comme un zèle louable, et c'est, paraît-il, la définition la plus littérale de ce mot. Dieu a un zèle louable ou ardent qui s'emploie à préserver quelque chose de précieux, c'est-à-dire une relation intime avec ses créatures qu'il aime, qu'il appelle à devenir son peuple. Donc, ce Dieu-là, on voit au verset 5 de l'Exode, du chapitre 20, ce Dieu-là punit. Alors, c'est pas tout à fait exact, ce mot, puisqu'il y a une note en bas de ma Bible de la traduction Colombe qui met littéralement « qui visite ». Et Darby aussi a traduit juste ce mot « Dieu visite ». Il visite ou il sanctionne, a traduit Chouraki, où il poursuit la faute des pères sur 3 ou 4 générations et pour faire grâce jusqu'à 1000. S'il visite, le mot « visiter » entre parenthèses est un mot qui est souvent utilisé dans la Bible et qui, malheureusement, c'est dommage, n'a pas toujours été traduit littéralement, mais souvent il est utilisé quand Dieu visite, c'est pour apporter une bénédiction, c'est pour apporter le salut. La prière de Zacharie, par exemple, le père de Jean-Baptiste, qui dit « Béni soit l'Éternel de ce qu'il a visité son peuple, il s'est souvenu de son alliance hein, » dans Luc chapitre 1. Donc vous voyez, ce mot « visiter » a toujours un sens, finalement, de sauver, d'arracher la créature à sa perdition. Donc il ne faut pas le voir négativement, mais plutôt positivement, bien qu'il peut avoir un aspect de jugement sur le mal. Et on le voit dans Luc 11, 50, par exemple, le Seigneur Jésus, quand il dit que toutes les fautes et la méchanceté des habitants d'Israël à l'égard des prophètes, et il dit que cela sera redemandé compte à cette génération. Donc on voit qu'il y a une solidarité et dans le péché, comme dans la grâce, Dieu désire, Dieu travaille son peuple, le cœur de son peuple, et Dieu se plaît aussi dans sa souveraineté à châtier parce qu'il est saint, il est juste. Et on peut voir aussi une forme déguisée de l'idolâtrie. Donc, tu peux passer au suivant. Voilà, c'est les pratiques occultes. Puisque Satan, adversaire de Dieu, il n'a qu'un désir, et on le voit à travers toute la Bible, c'est se faire adorer, se faire servir. Et il va utiliser des objets, des pratiques secrètes que nous trouvons, qui sont décrites en particulier dans le Deutéronome, chapitre 18. Et donc ce sont par les consultations chez des voyants, chez des guérisseurs, en consultant l'horoscope et les diverses magies, la blanche, soi-disant pour faire du bien, la noire, qui est plutôt conduite pour exercer un pouvoir sur quelqu'un et exercer la sorcellerie. Et toute la série qu'on a eue il n'y a pas longtemps, d'Harry Potter en particulier, pour on va dire, polluer notre jeunesse et nos enfants. Ces choses-là sont interdites par le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'elles entraînent des séquelles importantes sur les générations même, parfois. Ce qu'elles peuvent conduire à la dépression, à des maladies mentales et des troubles du comportement. Ce n'est pas donc le but ce matin de vous décrire toutes ces choses parce qu'on n'a pas le temps, mais simplement de le mentionner. Donc, si Dieu visite la faute, c'est pour avertir et pour nous permettre aussi de nous repentir si nous avons pratiqué ces choses qui sont en abomination à l'Éternel. Et on a un exemple, tu peux passer la suivante. On a un exemple d'un acte 19 où on voit les chrétiens d'Éphèse, qui au contact de l'Évangile, et bien qui ont pratiqué les arts magiques, se mettent à avouer, à confesser leurs fautes et à brûler même leur livre de magie qui avait une grande valeur. Gaspillage aux yeux de certains. Mais non, ils obéissaient au Seigneur. Ils se séparaient des choses impures sur lesquelles Dieu avait prononcé sa malédiction. Et il est dit, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est ainsi. En se séparant des choses abominables, des idoles. Donc, on voit qu'il peut y avoir une solidarité entre les générations, jugement ou bénédiction, qui rejaillissent sur les générations suivantes, que dans la mesure où les descendants persévèrent dans une attitude, dans une bonne ou mauvaise attitude. Et chaque génération, on va dire, prépare un peu le terrain de la suivante. Et on voit ça aussi dans l'histoire d'Israël, où un jugement inéluctable, on va dire, est venu au travers de certaines générations. On voit ça à travers les rois d'Israël et de Juda. Et j'ai regardé l'histoire des rois d'Israël et de Juda sur 19 rois, si on compte de Salomon jusqu'à Sédécias, en 586 avant Jésus-Christ. Eh bien, il y a eu 7 rois fidèles pour 12 rois infidèles qui, hélas, ont entraîné le peuple dans la corruption, dans l'idolâtrie, dans les choses les plus grossières, on va dire. Et donc, cette histoire donc, d'Israël, on la voit, ça commence au veau d'or, où tout de suite, il tombe dans le piège de l'idolâtrie d'un animal en disant « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir ». Donc ils veulent à tout prix matérialiser ce Dieu qui est sur la montagne. Pendant que Moïse parle avec l'Éternel, ils veulent matérialiser ce Dieu. C'est terrible comment la nature humaine est faite, n'est-ce pas ? Et on ne peut pas leur jeter la pierre parce que nous, dans notre monde moderne, nous avons aussi beaucoup d'idoles cachées, déguisées. Et donc nous ne pouvons pas penser que nous sommes meilleurs. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il y a un grand abîme entre la sainteté de Dieu qui visite la faute sur 3 ou 4 générations et la compassion, la miséricorde de Dieu sur ceux qui l'aiment, qui gardent ses commandements, qui va jusqu'à 1000 générations. Donc on peut dire qu'il y a un très grand écart et que Dieu ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon ce que nous mériterions. comme nous dit le psaume 103. Donc maintenant, j'aimerais passer à un autre aspect. Pourquoi Dieu interdit-il les idoles à son peuple? Donc, tout d'abord, première raison, si Dieu interdit les idoles à son peuple, c'est parce que il méprise son peuple, son alliance. On le voit dans Deutéronome 4, 23, où il est dit ceci, « Prenez garde à vous de peur que vous n'oubliez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a conclue avec vous et que vous ne vous fassiez une statue, une représentation quelconque, contrairement à ce que l'Éternel, ton Dieu, t'a commandé, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Donc, c'est la première des raisons, c'est que Dieu ne veut pas que nous lui soyons infidèles. La deuxième raison, c'est qu'obligatoirement, quand on représente Dieu, eh bien, on le déforme, on le défigure, on le rapetisse, et Dieu ne veut pas que nous fassions ainsi. C'est comme nous, par exemple, si on a une photo où on n'est pas en réalité, on est plutôt frustré. Hein, ben, c'est beaucoup plus grave si on fait ça à l'égard de Dieu, n'est-ce pas? Parce que finalement, si on réfléchit, l'image de Dieu, c'est l'homme. Nous avons été créés à son image. Alors Dieu n'a pas besoin qu'on le représente par d'autres images. Et l'image parfaite de Dieu, eh bien, c'est le Christ Jésus, le Sauveur, qui est venu. Il est l'image lui-même du Dieu invisible. La troisième raison, c'est une raison aussi qui est très grave, c'est que derrière l'idole se dissimulent des démons. Nous lisons ça dans Deutéronome 32, où Dieu fait le reproche à Israël, et il lui dit qu'il est devenu gras, qu'il s'est regimbé. Il a délaissé Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils excitent sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'irritent par d'horribles pratiques. Ils sacrifient à des démons qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissent pas. Donc, vous voyez, ce texte est très fort dans le Deutéronome, où c'est une des dernières exhortations de Moïse à son peuple pour le préserver de l'idolâtrie, puisqu'il dit souvent c'est un peuple à la nuque raide. Ils ont de la peine à courber la nuque, à s'humilier devant Dieu, et nous ne sommes pas meilleurs. Hein. Nous sommes comme eux. Et nous avons besoin d'être vigilants aussi, de ne pas nous placer sous le pouvoir de puissance des ténèbres. Et puis, quatrième raison pourquoi Dieu ne veut pas l'idolâtrie, c'est parce que nous nous exposons, ceux qui se livrent à l'idolâtrie, au châtiment, c'est-à-dire à la corruption morale, qui est déjà en elle-même un châtiment, on le voit dans Romains chapitre 1, et puis ensuite à une mort rapide, on voit ça, ce que Dieu dit à Israël, et finalement l'exil et la détresse morale. Donc, il y a toute une liste aussi dans Deutéronome 28, il y a 54 versets qui décrivent la malédiction de ceux qui abandonnent l'Éternel. Et ces 54 versets, eh bien, c'est une description qui montre, pour avertir ce peuple que Dieu aime, de ne pas lui tourner le dos, de ne pas se créer de faux dieux. Et puis la cinquième raison qui est peut-être qui devrait en tout cas nous motiver le plus et qui devait le motiver Israël, c'est son amour pour son peuple. Dieu a des projets de paix, non de malheur. Il a des projets d'amour, d'avenir pour ses enfants, parce qu'il a un amour exclusif, un amour passionné pour son peuple. Et on le lit dans plusieurs versets, dans Jérémie 31, où Dieu dit « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté ». Malgré toutes les infidélités que tu as faites, je t'aime toujours. Et on le voit au travers des siècles pour ce peuple. Ésaïe 43, verset 4, tu as du prix à mes yeux du fait que tu es honoré et que je t'aime. Ésaïe 49, je t'ai gravé sur mes mains. On vient de le rappeler par le pain et le vin que le Seigneur nous a gravé sur son corps, le Seigneur Jésus-Christ. Et puis Ésaïe 54, versets 5 à 8, qui est peut-être un des textes les plus forts aussi, où Dieu parle à son peuple en disant « Celui qui t'a fait est ton époux » ou « qui t'a faite » parce qu'il s'adresse à Israël comme à une femme infidèle ou que Dieu rappelle, l'Éternel te rappelle comme une femme abandonnée avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit le Seigneur. Et encore dans Ézéchiel 39, 25, Dieu dit qu'il sera jaloux, il dit « Je serai jaloux de mon Saint-Nom ». Et comment il va être jaloux de son Saint-Nom, ou comment il va déclencher un zèle ardent, eh bien il dit « Je ramènerai les captifs de Jacob, j'aurai pitié de toute la maison d'Israël ». Et de nos jours, nous regardons ce qui se passe, nous voyons qu'il y a des millions de Juifs qui sont rentrés en 100 ans, des millions de Juifs sont rentrés dans leur pays. Nous voyons sous nos yeux le zèle louable de l'Éternel qui accomplit les promesses qu'il a faites à ce peuple terrestre malgré sa rébellion, malgré ses fautes. Dieu est un Dieu de compassion qui accomplit sa parole. Alors maintenant, j'aimerais qu'on voit encore dans la Nouvelle Alliance comment est-ce qu'on peut provoquer la jalousie du Seigneur. Je me suis posé ces questions en cherchant des exemples aussi dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, on voit quatre choses, quatre passages importants qui nous montrent comment on peut provoquer la jalousie du Seigneur. Tout d'abord, eh bien, il n'y a pas longtemps, nous avions une prédication bénie de notre frère David Sutherland sur Jésus chassant ceux qui faisaient du commerce dans le temple. Et dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 2, au verset 16, l'apôtre Jean conclut cet épisode qui est quand même surprenant, n'est-ce pas ? Jésus qui fait un fouet et qui chasse les vendeurs du temple. Et donc, il conclut en disant, « Ils se souvinrent, les disciples, qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Ce zèle, justement, c'est cette ardeur de l'amour de Dieu en Christ pour sa maison, c'est-à-dire son temple, et donc qui ne supporte pas qu'on détourne la véritable adoration pour le profit matériel de gens qui, comme nous l'a expliqué notre frère il y a, je crois que ça faisait 15 jours, pour nous dire que ces gens-là abusaient et voler en quelque sorte les fidèles qui venaient adorer le Seigneur. Donc cet argent injustifié ou mal acquis ne doit surtout pas être dans la maison de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus aussi a dit à ses disciples, « Nul ne peut servir deux maîtres, vous ne pouvez servir Dieu et mammon, la puissance de l'argent ou de la richesse. » Donc, c'est pas une statue, hein, l'argent. C'est un faux Dieu déguisé qui facilement peut aussi nous gagner et nous devons veiller justement à cette cupidité, cette soif de posséder dont Paul dit aux Colossiens chapitre 3 verset 5, il dit « c'est une idolâtrie ». Que Dieu nous en préserve. Ensuite, il y a aussi pour les chrétiens de Corinthe, nous disons dans 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 14, l'apôtre Paul hein, Corinthiens 10, 14, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Et après, il explique pourquoi et comment, parce qu'ils étaient eux-mêmes tentés par les cultes aux idoles dans cette ville. Et il dit, il leur dit ceci à ceux qui sont tentés, il leur dit, verset 19, est-ce que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou une idole est-elle quelque chose? Nullement. Mais ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez avoir part à la table du Seigneur et à la table des démons. La table du Seigneur, on vient d'y participer. C'est une bénédiction. Mais après, Paul nous dit, est-ce qu'on veut provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Et parfois, si nous nous laissons entraîner par les idoles de ce monde, eh bien nous pouvons, involontairement certainement, mais enfin on peut provoquer la jalousie du Seigneur ou le zèle ardent du Seigneur. Donc, voilà une manière d'attrister le Seigneur, de lui faire concurrence. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, aussi, il y a un texte qui parle de la jalousie du Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui l'éprouve et il dit « Je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. » Parce qu'il y avait des faux apôtres, des faux prophètes, on va dire, qui pénétraient dans cette église de Corinthe, qui apportaient un enseignement qui dévalorisait l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui apportait un autre esprit. Et Paul, donc, il était vraiment... il éprouvait dans ses entrailles le zèle ardent de Dieu, l'amour ardent de Dieu pour son église, et il ne voulait pas que cette église soit déformée, soit pervertie par ses faux enseignements. Donc voilà aussi une façon qui provoque la jalousie de Dieu. Donc il ne tolère, c'est un amour qui ne tolère aucun rival. À ce sujet aussi, j'ai vu une petite histoire aussi que Lucien Clerc relate dans un texte en expliquant qu'un jour, il y avait une jeune femme dans un train assez jolie qui provoquait, on va dire, un peu l'attirance de jeunes gars qui étaient là avec elle dans le compartiment qui lui faisait des avances, en quelque sorte. Et cette jeune femme, ben, qui était sérieuse et qui était très certainement croyante, eh bien, elle réfléchissait comment elle allait faire pour être préservée de tout ça. Et elle leur a simplement montré son alliance. Et elle les a regardés et elle leur a dit « Je suis une épouse ». Et paraît-il que cette affirmation d'appartenir à quelqu'un a calmé ces personnes et ça leur a rappelé la réalité, n'est-ce pas, de l'alliance, cet amour exclusif. Et donc, combien plus l'amour que Dieu nous porte a cette marque d'exclusivité. On voit encore dans la lettre de Jacques aussi, Jacques au chapitre 4, où Jacques dénonce aussi, on l'a étudié donc dernièrement dans les groupes de quartier, donc je ne vais pas y revenir en détail, hein, simplement que Jacques, dans sa lettre, dit aux croyants, il leur dit qu'ils sont comme des adultères ou des personnes infidèles à cause de leur amour pour le monde. Alors il ne s'agit pas des gens, hein, c'est pas par rapport aux gens de ce monde, mais c'est aux choses de ce monde qui sont hostiles au règne de Dieu. Hein, faut bien comprendre ça. Donc il dit, si nous nous attachons trop aux choses de ce monde, eh bien cela devient, c'est une inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera un ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dise en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Dieu réclame, c'est une autre traduction, avec jalousie, il nous a donné les arts de son esprit et il attend que nous puissions vraiment nous consacrer à lui en retour du don de son esprit. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'idoles modernes qui peuvent remplir notre cœur, que ce soit par des acteurs, des chanteurs, des vedettes du sport ou de je ne sais quoi, ou voire politique, qui pourrait prendre la place de Dieu par les médias aussi, par la télévision, le cinéma, Internet, images malsaines, les jeux, toutes ces choses-là qui essayent de conquérir notre cœur. Alors il faut savoir faire le tri, il faut savoir se détourner aussi de ces choses qui peuvent, si on leur laisse trop de place, eh bien, voler notre temps, le temps qui est réservé à Dieu. La lecture de la Bible, la prière, les réunions de semaine, une par semaine, de notre église, la plupart du temps, au milieu de la semaine. Qu'est-ce que c'est? Une sur sept. Hein? Et le culte du dimanche. Bref, Dieu réclame avec jalousie l'esprit qu'il fait habiter en nous. Et il y a beaucoup d'idoles. Et bon, j'ai pas eu accès encore, mais j'ai vu sur le site de Jean-Michel, sur le site de Un poisson dans le net, une information qui a un livre qui a paru aux éditions Clé qui s'appelle Les idoles du cœur de Tim Keller. Donc paraît-il que ce livre est très intéressant parce qu'il décrit, on va dire, les idoles modernes qui peuvent nous séduire. Et donc, je pense que ça vaudra la peine peut-être une fois de commander ce livre et de le faire circuler. Donc, pour conclure, le zèle ardent du Seigneur et son amour exclusif nous appellent. Nous appellent à quoi ? Eh bien, il nous appelle parce qu'il nous aime. Et il désire que nous puissions le servir dans son plein. Et cette qualité d'amour qu'il éprouve envers nous, eh bien, il attend aussi que nous puissions éprouver cette réciprocité, c'est-à-dire puisqu'il nous aime en premier, il nous appelle aussi à l'aimer, en lui consacrant nos vies, que nous ayons une vie sainte et digne de lui, que nous puissions aussi l'aimer en retour, et nous rappeler ce grand commandement qui était donné à Israël, mais à chacun de nous aussi, hein, c'est dans Deutéronome, chapitre 6, au verset 5, où il est dit « Écoute Israël, l'Éternel est l'unique Seigneur. » Puis après, il donne cet ordre « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, hein, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Donc, ce grand commandement, il fait bon nous le remémorer pour nous et nos enfants, que nous puissions apprendre à aimer l'Éternel, parce que lui, il nous aime d'un amour fou, incalculable, puisqu'il nous a tout donné en Jésus-Christ. Et donc, c'est cette qualité d'amour que Dieu nous appelle à éprouver et à vivre. Mais est-ce que c'est facile? Je pense pas, hein, c'est difficile, parce qu'on est faible, et puis on est tenté. Eh bien, il y a un texte qui me paraît être aussi une clé, c'est le texte d'Éphésiens 3. C'est ce dernier texte que j'aimerais juste voir avec vous. Cette prière de Paul où il dit dans Éphésiens 3, il prie pour que les croyants d'Éphèse, mais nous tous, que nous soyons puissamment fortifiés par l'esprit dans notre homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre, pas tout seul, remarquez bien, avec tous les saints, tous les enfants de Dieu, c'est-à-dire l'Église, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, quatre dimensions, cet amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ce n'est que par notre communion avec Jésus-Christ et que par la puissance du Saint-Esprit, avec l'aide du corps de Christ, les uns avec les autres, nous arriverons aussi, je crois, à répondre à cet amour incommensurable de Dieu envers nous, puisqu'il nous réclame. Il nous réclame entièrement pour lui. Mais je vous propose de prier. Père Céleste, merci pour cette parole qui nous rappelle la grandeur de ton plan envers ton peuple d'Israël, envers l'assemblée de Jésus-Christ, notre Seigneur, dont nous sommes membres par ta grâce. Et Nous pouvons que nous humilier et reconnaître que bien souvent nous avons provoqué ta jalousie, ton zèle ardent pour nous avoir uniquement pour toi. Nous avons trahi bien des fois, Seigneur, ton alliance. Nous l'avons sous-estimé, méprisé. Et merci parce que tu fais encore grâce à ceux qui se repentent et qui reconnaissent, Seigneur, leur besoin de retour vers toi lorsque nous nous en éloignons. Et je te prie pour chacun de nous, pour que tu nous trouves, sincères devant toi et que tu nous aides à voir si nous avons laissé des choses dans nos cœurs prendre ta place ou des personnes. Seigneur, aide-nous à nous donner entièrement à ton amour paternel, toi qui nous as tout donné en Christ Jésus ton Fils. Et permets-nous de t'aimer, de te servir d'une façon totale pour l'honneur et la gloire de ton nom. Que ton amour, Seigneur Jésus-Christ, soit répandu encore à nouveau dans nos cœurs pour avoir la force de te suivre et de te glorifier sur la terre. En tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église, merci de nous venir en aide. Et à toi soit toute la gloire et l'honneur. Amen.